Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 20 septembre 2022. Je vous donne les titres d'actualité. La semaine dernière, je vous avais parlé de la génération Z, donc vous savez, ces enfants qui sont happés par le numérique. Donc bien évidemment, il s'agit d'un problème pour les générations futures, bien évidemment. Aujourd'hui, je vous parle d'un tout autre problème, voire d'une grande souffrance, à savoir le divorce des parents. Donc nous allons, à l'aide d'un article de Marine Tertrais, publié sur le blog de Famille Chrétienne, voir un petit peu le sujet de la souffrance des enfants suite au divorce de leurs parents. J'enchaînerai ensuite justement avec les conseils du père Pierre-Marie Castaignos pour faire les bons choix. Faire le choix de la bonne personne pour faire un mariage heureux. En portrait, je vous parlerai d'un acteur, vous en avez sans doute parlé, c'est peut-être moi qui suis en retard, donc de la conversion de Shia LaBeouf, donc cet acteur qui s'est converti en jouant Padre Pio. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Et en culture chrétienne, je vous présenterai un livre qui vient de paraître aux éditions des Béatitudes, intitulé « Ménage spirituel de notre maison ». Discerner, trier, rejeter. Un livre de Anne Lemaître. Elle vous dira dans ce livre qu'est-ce qu'il faut dépoussiérer, quelle porte faut-il ouvrir et quelle porte faut-il fermer. Nous commençons avec la terrible question du divorce des parents et quelle souffrance pour les enfants. Nous allons faire un petit peu un état des lieux. Donc sur ce sujet, encore tabou, même si le divorce est limite banalisé pour les adultes, qu'en est-il du côté des enfants ? Comme vous le savez, pour ne pas culpabiliser les adultes, la souffrance des enfants après le divorce de leurs parents est une question rarement abordée. Mais pourtant cruciale. Voici donc l'article de Marine Tertrais en ligne sur le blog de Famille Chrétienne à ce sujet. Plus la cellule familiale est fragilisée, plus l'enfant se déclare en souffrance. L'indice global de souffrance psychologique est de 34,5% chez les enfants qui vivent avec les deux parents. De 40% pour ceux qui vivent avec l'un des deux parents. Et de 42,1% pour ceux qui vivent dans une famille recomposée. Juliette nous dit « Ce qui m'a fait le plus souffrir dans le divorce de mes parents, c'était ces allers-retours incessants entre la maison de mon père et celle de ma mère. Je n'avais pas véritablement de chez moi. Ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait pas 3 ans. Et les séquelles sont encore très profondes 20 ans plus tard. Des Noëls coupés en deux, des anniversaires avec seulement un de ses parents, rarement un moment en paix avec son papa et sa maman. On ne réalise pas à quel point cela peut être dur pour une enfant. Le sujet est rarement abordé, mais Jérôme Brunet, porte-parole de l'appel des professionnels de l'enfance, rappelle que le divorce est un véritable traumatisme pour l'enfant. À l'occasion d'un colloque organisé par l'association Famille et Liberté et l'International Children's Rights Institute sur la délicate question des enfants de divorcés, il a détaillé l'ensemble des souffrances que pouvait rencontrer un enfant après la séparation de ses parents. Il peut d'abord y avoir une blessure dans son besoin de sécurité affective. Les piliers sur lesquels il fondait sa sécurité psychique, voire physique, s'effondrent. Si l'amour entre mes parents peut prendre fin, se dit l'enfant, viendra peut-être un jour où ils ne m'aimeront plus. Et oui, ce sont des paroles d'enfant. L'enfant peut aussi être perturbé dans sa vie quotidienne à cause d'un changement d'école ou de maison, ou pris dans un conflit de loyauté, si ses parents le prennent à témoin dans leur conflit. Enfin, il pourra se sentir coupable de l'effondrement de sa famille. À cela s'ajoute aussi la difficulté qu'ont certains enfants à trouver leur place dans les nouveaux foyers que leurs parents choisissent de reconstruire chacun de leur côté. Si cette question est extrêmement sensible, elle ne doit pas être pour autant évitée. Dans le cadre du synode sur la famille, le cardinal Schönborn avait invité à porter une attention toute particulière aux enfants de divorcés, première victime de la séparation de leurs parents. « Lorsque mes parents ont divorcé, j'avais 13 ans. Le soir où j'ai appris leur séparation a été l'un des moments les plus douloureux de ma vie. Ensuite, il faut prendre en considération l'intérêt de l'enfant. Si depuis une quarantaine d'années, on nous vend des histoires de divorce heureux, certains se souviendront du film « Génial, mes parents divorcent » de Patrick Braoudé, donc sorti en 1990, de plus en plus de voix se lèvent pour alerter sur les conséquences du divorce sur l'équilibre psychique des enfants. La pédiatre Catherine Bolto nous dit « Nous avons tellement banalisé ces modes de vie qu'il est maintenant considéré comme ringard de valoriser une famille unie, rassemblée sous le même toit. C'est oublier que du point de vue des enfants, rien de tout cela n'est banal et qu'ils paient un lourd tribut en souffrance psycho-affective à ces nouvelles manières qu'ont les adultes de chercher un bonheur, toujours espéré, souvent différé. Sur le plan juridique, la loi tente de limiter au maximum les conséquences du divorce pour l'enfant. Elle s'emploie à sauvegarder son intérêt et notamment à lui garantir de pouvoir maintenir des liens avec ses deux parents. Toutes les décisions concernant l'enfant doivent être prises en considération de l'intérêt de ce dernier. L'intention est louable, mais le résultat est nécessairement limité, car aucune de ces mesures ne compense le fait de départ qui est la séparation des parents. Dans ces circonstances, la loi manque d'ambition. Chercher à limiter les dégâts de la séparation parentale est une bonne chose. Mais il serait dans le même temps bénéfique pour l'enfant de chercher à éviter cette séparation, notamment en adoptant des mesures favorables au mariage. Or, non seulement aucune mesure n'est adoptée ni même proposée au Parlement en ce sens, mais c'est le contraire qui est fait. Chaque réforme est l'occasion de rogner sur les derniers avantages du mariage. Ce qui ne risque pas d'encourager les gens à demeurer mariés, puisqu'ils n'y trouvent pratiquement plus leur compte. Donc, tout est fait pour faciliter le divorce, alors qu'une seule mesure favorable au mariage serait bien plus utile aux enfants que tous les efforts réunis pour tenter de les protéger en cas de divorce. Pour Marc Danselme, psychologue clinicien, spécialiste de la famille et du couple, le divorce n'est pas une fatalité. Le grand problème qui conduit les personnes au divorce, c'est le découragement. Les conjoints ont l'impression d'avoir tout fait pour que leur couple fonctionne, sans y arriver, et qu'ils sont sous le poids d'une fatalité qui les condamne à ne jamais y arriver. Alors, ils concluent, à l'erreur de casting, qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Cette explication a l'avantage de tout expliquer par une unique cause simpliste. Or, mon expérience de thérapeute, nous dit-il, m'incite à ne pas croire à l'erreur de casting, car au contraire, c'est dans les difficultés même du couple que je constate toute l'intelligence que les personnes ont mise à se choisir. J'estime que le plus grand nombre des difficultés conjugales ont des solutions autres que le divorce. Face à de graves difficultés, des solutions, et c'est pas ce qui manque, comme la médiation familiale ou les thérapies conjugales, pourraient davantage être mises en valeur pour sortir de l'impasse entre la résignation et le divorce. Elles sont aussi une aide précieuse pour restaurer une vie conjugale heureuse, mais aussi l'épanouissement de la personnalité de chaque conjoint pour le plus grand bonheur des enfants. C'était l'article de Marine Tertrais en ligne sur le blog de Famille Chrétienne sur le sujet de la souffrance des enfants suite au divorce de leurs parents. Nous restons en ligne sur le blog de Famille Chrétienne avec cette fois-ci un entretien donné au père Pierre-Marie Castaños que vous avez eu de toute façon l'occasion d'entendre sur Radio Maria. Et dans cet entretien, il a répondu à des questions tout simplement comment bien se choisir quand on se marie. Vous êtes amoureux. Comment savoir si vous êtes appelé à épouser celui ou celle qui fait battre votre cœur ? Voici donc les clés pour le discernement du père Pierre-Marie Castaños. Première question. Comment faire pour discerner sereinement si l'on est fait l'un pour l'autre ? Le père Pierre-Marie nous dit « Le discernement est un acte peu habituel. S'aimer n'est pas spontané, mais demande de l'intelligence et un travail sur soi-même. Le discernement permet d'éveiller les amoureux à ce qu'ils sont en train de vivre et sur lequel ils n'ont pas forcément de mots. Pour cela, il est nécessaire de rester libre. La vie commune par exemple, n'aident pas forcément à voir clair. Il est important de ne pas aller trop vite, de prendre du temps, seul, à deux, en famille, avec des amis. En voyant l'autre dans des situations différentes, on se fait une idée assez juste de sa personnalité. Discerner n'implique pas de tout disséquer. Certaines choses viendront au fur et à mesure. Il n'est pas facile de tenir ensemble un vrai discernement impliquant la prise en compte de critères et un certain lâcher-prise, une confiance, un abandon à Dieu. Nous avons l'habitude de voir ces deux attitudes comme contradictoires alors qu'elles s'appellent l'une l'autre. Deuxième question. Ce discernement s'inscrit dans le temps. Y a-t-il des étapes à suivre ? Dès que les couples, nous dit le père Pierre-Marie, sont engagés dans les fiançailles, la partie logistique est lancée, l'engagement affectif est fort. Certains rituels, présents dans tous les milieux, enfoncent le clou. La bague, la rencontre des familles, le repas de fête, etc. En théorie, c'est un temps de discernement. En pratique, cela ne l'est pas. Être fiancé, c'est devenu un statut en soi. Cette étape précédant les fiançailles répond aussi à un besoin d'être rassuré. Tellement de couples autour des jeunes se séparent, que ce soit du côté des parents, des frères et sœurs, voire même quelques grands-parents. Cela freine le désir de s'engager. Troisième question. Les liens avec la famille de chacun semblent occuper une grande partie du discernement. Pourquoi ? Le père nous répond que, enfants, nous sommes dans un lien fusionnel avec nos parents. Une éducation bien menée fait de nous leurs alter ego, un adulte différencié. Concrètement, cela signifie avoir conscience de l'héritage familial et des rites familiaux, sans s'identifier à eux. Nous avons avec nos parents une certaine loyauté. Ils nous ont donné la vie, nous ont aimés. Inconsciemment, nous nous sentons tenus de les aimer et de leur venir en aide. Tout discernement doit donc aborder ces deux questions. Qu'est-ce que je veux quitter ? Qu'est-ce que je veux transmettre à la génération suivante qui me provient de mon sang ? Si cette question des loyautés n'est pas réglée, elle peut faire naître un conflit entre le futur conjoint et la famille d'origine, ainsi qu'à l'intérieur du couple. Autre question. Les différences de milieu, de religion, de nationalité sont-elles un obstacle à la durée d'un couple ? Alors, que nous répond le père Pierre-Marie ? Il répond « Ces différences relèvent aussi des loyautés par rapport aux parents. Cela ne veut pas dire que le mariage n'est pas possible. Mais il ne faut pas en sous-estimer les difficultés. Les couples n'ont pas toujours conscience que le mariage fait entrer dans une logique de transmission des gènes, du patrimoine, de la foi. Une personne véhicule un héritage, des visions et des rituels familiaux. Je pense à cette fille épousant un garçon dont la famille a une sensibilité religieuse différente de la sienne, à cette autre qui se marie avec un garçon de famille juive. Ils doivent savoir que toute pratique religieuse n'est pas anodine, au sens où elle entraîne souvent toute une vision du monde. Dernière question. Une des grandes causes de reconnaissance de nullité est le manque de maturité d'un des époux. Qu'en pensez-vous ? Le père Pierre-Marie nous dit « La maturité est la pierre angulaire du discernement. Elle comporte trois éléments. La stabilité d'esprit, la manière de prendre des décisions selon la vertu de prudence et la bonne appréciation des événements et des personnes. Tout le contraire, me direz-vous, de personnes qui sont dans l'ascenseur émotionnel en permanence, qui prennent les décisions à l'emporte-pièce ou surréagissent par rapport aux événements. Les addictions, par exemple, font partie de l'immaturité. Si l'on est accro à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, aux achats compulsifs, un travail de libération s'impose. Si quelqu'un a des vrais problèmes avec l'alcool, ce n'est pas en se mariant qu'il va en guérir. Il est nécessaire de prendre aussi en compte les blessures personnelles, en les pointant et en se faisant accompagner par un professionnel. On n'est pas du tout dans le jugement. On ne peut pas arriver au mariage avec une humanité trop blessée. Ça n'a rien à voir avec le cœur de pauvre. Certes, il ne s'agit pas d'être parfait, mais tout simplement aimable et capable d'aimer. Et pour terminer, une petite question bonus sur la vie commune avant le mariage. Que répond le père Pierre-Marie Castaños à cette fameuse question « Et si on s'installait ensemble ?» Il nous dit « À travers les couples que je rencontre, j'observe que le concubinage est souvent le résultat de circonstances. Il est rarement fondé sur un choix libre, définitif et exclusif. Il crée des liens qu'il n'est pas toujours facile de rompre, même si c'était prévu. La peur de se retrouver seul, la peur de faire souffrir l'autre, peur du « qu'en dira-t-on ?» On reste par habitude et on évite inconsciemment ce qui peut blesser. La personne à l'essai, sans qu'elle ait à l'essai, et peut jouer un rôle pour correspondre au conjoint. Le concubinage, pour voir si on est compatible, ne crée pas le couple, puisqu'il y a toujours une porte de sortie. Il relève plutôt de deux individualités qui vivent sous le même toit et font couette commune. Pour les concubins, l'harmonie sexuelle est souvent un critère. Mais elle vient avec le temps. Elle est plutôt une conséquence d'une vie de couple qui se construit plutôt qu'un préalable. Or, le couple dépend d'une relation qui est à construire et qui demande engagement et temps. Un amour qui ne s'engage pas risque de s'étioler, de s'épuiser. Ce n'est pas l'amour qui fait le couple, car tomber amoureux, c'est facile, c'est hormonal, c'est prouvé scientifiquement. Mais la volonté de le faire fructifier et d'avoir un projet commun. C'était les conseils du père Pierre-Marie Castaños, donc du moins des clés pour le discernement en vue du choix d'une personne quand on est sur le point de se marier. Je vais maintenant vous présenter l'acteur Shia LaBeouf, donc, qui s'est confié sur sa conversion donc, dans le film sorti sur Padre Pio. Donc, il est rentré athée. Il a fait une rencontre intime avec Padre Pio et le voilà chrétien. Voici son témoignage que vous pouvez aussi trouver sur le blog de Famille Chrétienne. Padre Pio a sauvé ma vie. Dans une vidéo diffusée en direct sur YouTube, l'acteur Shia LaBeouf a témoigné de sa conversion au catholicisme. Invité par Monseigneur Baron, évêque de Winora Rochester, l'acteur de 36 ans, a témoigné de sa foi devant les 540 000 abonnés de la chaîne YouTube de cet évêque américain. Cette discussion de près d'une heure et demie a abordé de nombreux sujets comme la prière, le pardon, son jeu d'acteur, les ordres monastiques ou encore la messe en latin. Né en 1986 d'une mère juive askénaze et d'un père pentecôtiste, Shia LaBeouf commence son métier d'acteur dès ses 10 ans. Il est surtout révélé en 2007 avec le premier opus de Transformers, qui fait de lui un des acteurs les plus en vue d'Hollywood. Par la suite, il enchaîne les films à succès, mais s'oriente de plus en plus vers des rôles complexes et torturés. En 2014, lui qui se considère alors comme athée, tourne dans le film de guerre Fury. Il y joue un soldat américain particulièrement croyant. « Je suis devenu un chrétien, mais pas de manière fausse et hypocrite, mais d'une manière très vraie », disait-il à l'époque. Pourtant, son chemin ne faisait alors que commencer. Il y a 2 ans, au cours d'un programme spirituel sur Zoom, il fait la connaissance d'Abel Ferrara, réalisateur et scénariste. Ce dernier a alors pour projet de tourner un film sur la vie de Padre Pio. Il voit dans Shia LaBeouf l'interprète idéal. Ce dernier accepte. C'est alors le premier film qu'il entreprend après 2 années de pause. Afin de se préparer au mieux pour incarner le saint italien, l'acteur s'était retiré durant un temps dans un monastère de frères mineurs capucins. On croirait pas, hein, c'est vrai qu'on n'y pense pas pour certains acteurs hollywoodiens. Là, il souhaitait pouvoir découvrir la vie monastique, mais aussi étudier le personnage de Padre Pio. L'acteur confesse qu'à ce moment, il vivait l'un des passages les plus sombres de sa vie. Je ne voulais plus être en vie quand tout ça est arrivé. Je ressentais une honte comme cela ne m'est jamais arrivé. Je ne savais plus où aller. En effet, dire que Shia LaBeouf traînait des casseroles est un euphémisme. Accusations d'attouchement sexuel, drogue, violence, plagiat. Tout y passe pour cet acteur à succès qui semble à bien des égards s'être brûlé les ailes. Pourtant, dans l'intimité et le reculement de ce monastère capucin, il découvre une dimension nouvelle qui va le bouleverser. Il confie à Monseigneur Baron, « Jusqu'à mon entrée dans ce monastère, je n'avais jamais véritablement connu le silence et la quiétude. J'étais en permanence agité, mon téléphone colportant le brouhaha de ma vie mondaine, jusque dans les endroits les plus reculés. Et là, un frère m'a dit « Ferme ça et va dans cette chapelle. » Je me suis retrouvée face au Saint-Sacrement et j'ai d'abord appris à faire silence en moi. Lui, le pécheur, habitué à tous les excès du show business, se sent touché par la charité des frères capucins. Voir d'autres personnes qui avaient péché au-delà de tout ce que je ne pourrais jamais imaginer, être également pardonnée m'a donné de l'espoir. J'ai été piégée par Dieu, nous dit-il. Cela a arrêté d'être juste la préparation d'un film. Ça a commencé à être quelque chose bien plus grand que tout ça. Selon lui, Dieu s'est servi de son ego pour l'éloigner de tous les vices de son ancienne vie mondaine et le ramener à lui. Il nous dit encore, pour conclure, « Maintenant, je fais l'expérience de la prière et du chapelet. Je commence à connaître la messe, à la vivre pleinement et à ressentir ses effets. Je ne reçois pas encore l'hostie parce que je n'ai pas été baptisée, mais je ressens ce profond désir. » C'est Monseigneur Baron qui conclut cette riche discussion. « Mon sentiment est que c'est Padre Pio, de là-haut, qui vous a guidé jusqu'à lui. Le fait que vous jouiez son rôle et que vous rencontriez Jésus grâce à cela, c'est son intervention. Alors, remercions Dieu pour tout cela. » C'était le témoignage de conversion de Shia LaBeouf, donc, qui a interprété Padre Pio dans le film d'Abel Ferrara. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais vous présenter le dernier livre de Anne Lemaître, donc paru aux éditions des Béatitudes, intitulé « Ménage spirituel de notre maison, discerner, trier, rejeter ». Voici quelques lignes de présentation de l'ouvrage. De bonnes comme de mauvaises choses entrent dans nos maisons. En sommes-nous conscients ? Il était une fois, ainsi débute le conte du petit chaperon rouge, où il est question de porte et de tromperie. La porte a été ouverte à un loup rusé. Par manque de discernement ou par ignorance, nous pouvons ouvrir la porte de nos maisons à des loups, déguisés et séduisants par leurs propositions alléchantes. Mais si ces loups pénètrent chez nous, ils s'y installent. Or, nous sommes les portiers de nos maisons, et nous devons apprendre à discerner ce qui entre, tout comme ce qui doit disparaître. Ce livre est un outil pour nous permettre de faire la lumière sur certaines pratiques, d'apprendre à fermer les mauvaises portes, à résister aux tentations et à vivre de façon plus radicale notre foi en Jésus. Ce livre se propose et se présente aussi comme un véritable itinéraire spirituel pour discerner tout simplement ce qui mène à la vie ou à la mort dans notre quotidien. Donc, Ménage spirituel de notre maison, discerner, trier, rejeter, de Anne Lemaître aux éditions des Béatitudes.